Bonjour à vous tous. Je me réjouis d'être là ce matin, mais en fait, après les chants de louange, j'ai dit, ben voilà, on a tout chanté, je vais faire que de répéter certaines choses. Donc, c'est comme si mon travail était fait, donc je pourrais aller me rasseoir si vous voulez bien. Non, je ne suis pas venu pour ça. L'autre chose que j'ai remarqué juste en arrivant, enfin plutôt au début du culte, Stéphanie nous a fait remarquer qu'on n'était pas nombreux. Mais le Seigneur n'a pas besoin qu'on soit nombreux. Là où il y a deux ou trois qui sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, on est un peu plus et je me réjouis de pouvoir vous dire que Jésus est au milieu de nous ce matin. Ce qui évidemment m'enlève beaucoup de poids parce que, voilà, des fois, je ne suis pas l'orateur par excellence. C'est un exercice pour moi qui me demande beaucoup d'efforts parce que c'est vraiment sortir de ma zone de confort que d'être devant des gens et d'avoir tous ces regards qui sont braqués contre moi, c'est assez impressionnant. Quand j'ai su que j'allais devoir vous partager ce dimanche matin, ce culte, je savais tout de suite ce que je voulais vous dire. J'avais été très inspiré quand on était à la Forcla chez Myriam dans son chalet, et j'ai dit, ah ça serait l'objet d'un culte, mais je ne savais pas encore à ce moment-là. Et donc je savais exactement ce qui se passait. Seulement voilà, quand on veut parler de choses que le Seigneur nous met sur le cœur, de temps en temps, il nous prend à son école. Et figurez-vous que je voulais vous parler, et je vais d'ailleurs vous lire, une parole que Jésus adresse à ses disciples, sur se faire du souci et se tracasser. Qui de nous n'a pas ce genre de problème? Eh bien, voyez-vous, j'avais le sentiment que des fois je maîtrisais assez bien le sujet. Et voilà qu'il y a deux jours, je ne sais pas pourquoi, vers le matin, tout d'un coup, j'étais incapable de me rendormir. Je me tracassais et j'étais en souci pour des petites choses puériles. Mais voilà, ça m'a pris mon sommeil, figurez-vous. Alors, je ne sais pas, peut-être je suis très sensible ou peut-être quelqu'un de je ne sais pas quoi, mais peut-être que ça vous arrive, enfin j'espère que ça ne vous arrive jamais, mais si des fois, par hasard, ces choses-là devaient vous arriver, alors je pense que le texte d'aujourd'hui va nous aider un tout petit peu plus loin. Comme je vous disais, et là je lis dans cette traduction que j'aime énormément, la parole vivante qui m'avait été offerte à l'époque, et je vous lis dans le Luc 12, les versets 22 à 32. Jésus s'adresse à ses disciples. Ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, mais qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie est bien plus importante que la nourriture et le corps plus précieux que le vêtement. Regardez ces corbeaux. Jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'ont ni cave, ni grenier pour amasser leurs provisions, et pourtant, Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus que ces oiseaux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Si déjà vous n'avez pas le pouvoir pour ces petites choses, pourquoi vous tourmentez-vous pour les autres? Observez les lys sauvages. Regardez comment se forment leurs fleurs. Elles poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien habillé que l'une d'elles. Si Dieu habille avec tant d'élégance cette plante des champs, qui est là aujourd'hui et demain déjà sera jeté au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de vos habillements? Ah, votre foi est encore bien petite. Bannissez donc de votre vie les soucis au sujet du manger et du boire. Ne vous tourmentez pas l'esprit pour ces vaines inquiétudes. Ce sont des païens de ce monde qui se préoccupent de tout cela. Les pensées de ceux qui ne connaissent pas Dieu gravitent sans cesse autour de ces choses. C'est le but de leur vie. Mais vous, vous avez un Père au ciel, et c'est bien que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première, et toutes les choses vous seront données en plus. Vous êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur. Il a plu à votre Père, dans sa bienveillance, de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra le toucher, ni mythe, ni ver ne peuvent l'entamer. Amassez-vous un capital qui ne vous fera jamais défaut. Car soyez-en certains, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quand on lit ce texte, ça paraît tellement évident, mais je vous assure qu'en toute humilité, le fait d'avoir été juste rappelé un peu à l'ordre il y a environ 2 jours m'a fait voir qu'on est des fois très bon en théorie, mais dans la pratique, ça se gâte un peu. Et voyez-vous, c'est pas pour rien, en fait. Bon, moi, j'ai pas regardé avec Hélène ou Myriam qu'est-ce qu'on allait chanter, mais elles ont choisi 4 chants. Le troisième, je dois dire que j'étais un peu responsable, mais les autres, c'est eux qui les ont choisis. Et il me semble qu'ils sont particulièrement adaptés aussi à ce que nous allons vivre ce matin. Les soucis. Ce matin, en saluant les gens, je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne m'a pas dit « Ah, quand même, cette chaleur, on a à nouveau la canicule qui va venir nous trouver, enfin nous ramener à quelque chose qui n'est pas très agréable. » Donc, voyons, on se fait du souci. Aujourd'hui, il fait bon. Et c'est aujourd'hui qui est important. La chaleur, elle viendra, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Et on ne pourra rien y changer. C'est comme notre vie. Des fois, on a le sentiment qu'on maîtrise tout. Je ne suis pas tout à fait convaincu de ça, de l'avoir vécu différemment aussi. Mais c'est vrai que quand on parle avec les gens autour de nous, on voit que les soucis, ce n'est pas toujours très banal. Je parle beaucoup avec j'aime bien parler avec la jeune génération. Qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qui leur fait du souci, justement? Bien, c'est quand même beaucoup des questions qui touchent à notre environnement, le changement climatique, toutes ces questions aussi de la pollution, comment ferons-nous pour vivre demain? Et j'ai jamais ou rarement entendu un jeune qui disait « Mais enfin, finalement, on a quand même un Dieu créateur au-dessus de tout ça. » Il y a aussi d'autres soucis. Hein. On peut être une fois pris dans un conflit. Et on sait tous si ça vous arrive d'avoir une fois un conflit avec qui que ce soit. C'est compliqué. C'est aussi des choses, bah, typiquement en ce qui me concerne, qui des fois m'empêchent de dormir. Et le travail. Alors, le travail, c'est une bénédiction quand on a un beau travail. Mais le travail, ce n'est pas une garantie pour la vie. Des fois, on risque de le perdre. Et là aussi, beaucoup de gens se posent des questions, ont peur du lendemain. Et puis nous, les seniors, comment allons-nous alimenter notre vieillesse? Comment allons-nous pouvoir payer toutes nos factures, etc.? Alors, c'est vrai qu'on est très content d'avoir un 13e cette année qui va tomber pour nous, les gens du Seigneur, mais on se fait quand même du souci. Qui c'est qui va et comment allons-nous régler cette manne qui va nous être distribuée? on se fait du souci. Mais là, je vous lis quelque chose, le verset 26 que j'ai lu déjà tout à l'heure. D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques minutes ? Donc, voyez-vous, Jésus nous rappelle des choses, mais infiniment banales. On ne peut même pas prolonger sa vie de quelques minutes. On a beau faire des régimes, on a beau s'époumoner à faire des montées dans les alpages, et je ne sais pas tout ce qu'on peut faire encore pour son fitness et son bien-être. Et bien, malgré ça, figurez-vous, et Jésus nous le rappelle d'une façon claire, nette et précise, on ne peut pas prolonger sa vie, ne serait-ce que d'une minute. Donc, ça me ramène toujours à quelque chose de très simple. Jésus nous parle avec des éléments que tout le monde comprend. Regardez, il prend le corbeau. Oh ben, personnellement, je n'aurais pas pris cet oiseau, parce que figurez-vous que je ne l'aime pas beaucoup. Déjà, il a un vol qui est un peu lourdeau, et puis il a un croassement qui n'est pas très mélodieux non plus, mais enfin voilà. Dieu, dans sa grande bonté, les nourrit aussi. Il nourrit les corbeaux, figurez-vous. Beau ou pas très mélodieux, il s'en occupe. Et après, il nous montre quelque chose dans la nature, un végétal, une plante qui pousse. Et au début, on ne voit pas très bien ce que ça donne. Puis après, on voit quelque chose qui se développe. Et tout d'un coup, c'est une magnifique fleur qui se présente devant nous, un lys des prés. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Moi, quand j'étais à la Forcla avec Myriam, on a vu des quantités, pas cette année, l'année dernière, des quantités de lys des prés, c'était juste magnifique. Et figurez-vous, moi, je n'avais jamais rencontré Salomon, hein, mais figurez-vous que même Salomon n'était pas aussi bien habillé qu'une de ses fleurs. Et quand nous étions avec Hélène, il y a quelques semaines, en Bretagne, chez notre ami James, il a acheté une petite maison et les propriétaires qui étaient là avant avaient le bon goût de planter partout dans leur jardin, qui est assez grand, quand même 2800 mètres carrés. Ils avaient planté des fleurs partout, des arbustes, mais partout il y en avait, c'était juste incroyable. Et il y avait des hortensias. Des couleurs bleues, vous ne vous imaginez pas, mais comme un ciel d'été, absolument fantastique. Et des roses à perte de vue. Bref, je ne veux pas vous raconter tout ce que j'ai vu, mais je m'extasiais tellement c'était beau. En rentrant de Bretagne, nous étions avec le TGV. Et nous allions à une vitesse d'environ 250 km à l'heure. On ne les sent pas hein, quand on est dans le... Mais quand même, c'est assez rapide. Mais ce qui m'a surtout paru intéressant en regardant par la fenêtre, c'était ces énormes champs de blé qui venaient d'être récoltés. Des hectares et des hectares, des surfaces gigantesques dans une France qui est vraiment très plate. Et j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Tous ces paysans ont semé des graines. Ces graines ont poussé et on les récolte pour que nous ayons tous suffisamment à manger pour une année jusqu'à la prochaine récolte. Et tout ça, ça se fait naturellement, simplement, sans bruit. Nous pouvons certainement, je ne vais pas faire une leçon à un agriculteur, mais quand il faut récolter, ben, il faut d'abord s'occuper de la terre, la remuer, la planir, après il faut semer. Éventuellement, on peut mettre aussi, si c'est un peu sec comme aujourd'hui, on pourrait rajouter un peu d'eau. Mais la croissance, est-ce que vous pouvez faire pousser une petite fleur, une petite plante ? Un épi de blé. Tout ça, ça se fait sans bruit et on a le sentiment que c'est un dû. Eh bien non, pour moi, je trouve extraordinaire de voir là derrière la force créatrice de ce Dieu éternellement bon. Et c'est vrai que dans notre famille, on a pris l'habitude avant le repas de remercier Dieu pour ses bonnes choses, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. On se met à table et voilà. Et j'ai même remarqué que dans certaines familles, tout d'un coup, il y en a un qui commence à manger, l'autre qui fait autre chose, etc. Donc, il n'y a plus de véritable organisation. Hein. Et un ancien pasteur m'avait dit une fois, « Est-ce que tu as déjà été une fois dans une porcherie ?» Moi, j'ai été parce que mon grand-père en avait. Alors, je ne vous dis pas, avant qu'on apporte à manger, il y avait un bruit. Et ces cochons sont capables de sentir qu'on va leur donner à manger. Et dès que vous leur mettez quelque chose dans l'auge, et ils se ruent dessus, et ils se goinfrent. Il me dit, ben, tu vois, les êtres humains me font des fois penser à ça. Bon, je vous avouerai que c'est quand même réducteur. Hein, mais voilà, il faut en prendre peut-être aussi un petit peu de la graine et de dire, mais si nous, on a la possibilité de réfléchir et de dire, mais qui c'est qui est derrière tous ces bienfaits, toutes ces grâces? Eh bien, disons-lui au moins merci, que nous le voyons ou non. On revient toujours aussi à l'essentiel avec Jésus quand il nous parle. Il dit par exemple dans le verset 31, « Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première, et tout le reste vous sera donné en plus. » Nous avons chanté, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Donc là aussi, voyez-vous, on a beau se faire du souci, et quand je regarde rétroactivement sur ma vie, qui a quand même quelques années, je me dis, mais c'est juste absolument extraordinaire de penser à la bonté de Dieu durant toutes ces années. Alors certes, je ne vous dis pas, quand j'étais dans la misère ou dans la difficulté, je n'étais pas là tout de suite à pouvoir louer. Mais Dieu nous donne aussi cette capacité des fois de s'arrêter et de regarder comme on regarde un tableau et de dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Il y en a qui diraient, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Eh bien, je me pose souvent la question, parce que dans ma carrière, elle est jalonnée de choses. Voilà, quand j'y pense, je me dis, c'est juste pas possible qu'on puisse vivre ça dans une vie. Mais voilà, c'est la mienne. Jésus nous met aussi, des fois, en relation avec des gens. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que la vie en communauté nous demande des fois un effort. Et j'ai dans ce sens-là un texte qui me parle beaucoup parce que nous l'avions choisi avec Hélène quand nous nous étions fiancés. Et ce verset se trouve dans Galates 6 au verset 2. « Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux, supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix ?» Je trouve ces textes que nous avons dans les évangiles, dans les lettres que Paul nous adresse ou d'autres, un privilège extraordinaire d'avoir un Dieu vivant qui nous parle, qui parle non pas seulement en théorie, mais qui nous oblige aussi à faire le point, à nous arrêter, à regarder, à nous poser des questions. Et nous devons apprendre à lâcher prise et à faire confiance. Pas toujours facile, hein, je vous avouerai. Pour beaucoup, vous le savez, j'avais un commerce passionnant. Je m'occupais d'alimentation. J'avais des produits naturels et biologiques que je proposais à ma clientèle. Et combien de fois j'ai eu des clients et des clientes qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Mais vos produits bio, est-ce qu'on peut leur faire confiance ?» Bonne question. Est-ce que les produits bio sont meilleurs que les autres? Bonne question. Alors, moi, j'en ai été convaincu, mais il fallait quand même que je trouve une argumentation. Alors, je vous pose aussi la question, parce que cette question, chacun peut se la poser pour lui-même. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion? Vous pouvez lever la main si... Vous avez tous pris une fois l'avion à un moment donné ou à un autre de votre vie. Alors, je vous pose une deuxième question. Est-ce que vous avez eu l'idée d'aller frapper à la porte du pilote, dire « Dites donc, monsieur X, est-ce que vous pouvez me montrer votre diplôme là ? Est-ce que vous êtes capable de voler ? Est-ce que vous êtes sain d'esprit pour ne pas vous aventurer dans une grande montagne avec tout l'avion et ses passagers ? Qui c'est de vous qui a déjà été toqué à la porte ? Qui c'est qui n'a pas pris le train ? On ne va jamais aller vers le mécanicien devant puis lui demander s'il est capable de nous conduire. On fait confiance. Et figurez-vous, quand vous prenez l'avion, vous me remettez votre vie intégralement dans ces deux pilotes, le pilote et son copilote. Donc, vous faites confiance. Et c'est vrai qu'il y a des choses très banales qu'on fait tous les jours. Par exemple, vous êtes chez vous, vous appuyez votre doigt sur un bouton électrique. Vous le faites parce que vous êtes convaincu que l'électricité va jaillir, la lumière va fuser. Ben figurez-vous qu'il y a 2000 ans en arrière, du temps de Jésus, quand ce texte a été écrit, ce n'était pas du tout possible. L'électricité sous cette forme n'existait pas. Il fallait allumer une bougie si on voulait y voir clair la nuit. Donc, vous voyez, nous, aujourd'hui, on vit des choses qui nous paraissent tellement naturelles. Et quand on se projette en arrière, dans les textes que nous lisons, essayons aussi des fois de prendre un peu le recul, de dire, mais c'est quand même... La technique a fait ses progrès et son avancée, mais les paroles, elles étaient, elles sont, elles seront ce qu'elles ont toujours été, vivantes. Pour la confiance, combien de fois j'ai été me promener avec mes filles ou d'autres enfants. Les enfants, ils adorent grimper dans quelque chose, voyez-vous. Mais à un moment donné, il faut descendre. Et ça arrive quand même de temps en temps que c'est un peu haut. Donc les enfants, ils ne sont pas très quand même fous pour se dire « je vais sauter puis on verra bien ». Non. Ils attendent et ils appellent leur papa généralement et quand le papa est là, ils sautent dans ses bras parce qu'ils savent que papa va les retenir. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, mais je crois que mon expérience a certainement été déjà relayée par d'autres. Donc voilà, je ne fais que d'enfoncer une porte ouverte. Voyez-vous, ces enfants, ils appellent leur père papa. Et nous avons un père au ciel. Et quand on dit « Abba, père », on dit « Papa, notre Père ». Donc, c'est une intimité que nous avons avec notre Père au ciel que je trouve absolument touchant et bouleversant à quelque part. Et dans mon cheminement tout particulièrement, combien de fois je me suis senti dans une faiblesse absolue, soit que mon travail me prenait toute l'énergie, soit que je me retrouve dans un lit d'hôpital, ce qui est arrivé malheureusement, et ma faiblesse était quelque chose d'ingérable. Parce que, voilà, je ne suis pas un homme qui se couche, je suis un homme debout. Et quand on est couché ou quand on n'en peut plus, on ne se sent pas très, très, très bien. J'ai trouvé quelque chose là derrière, quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne m'a jamais fait le reproche de ma faiblesse. Au contraire, il a utilisé ma faiblesse pour me faire comprendre un certain nombre de choses. Figurez-vous que quand j'étais au CHUV, j'ai passé plus de 30 nuits blanches. Et c'est long, les nuits blanches. Une minute après l'autre, vous ne voyez pas le temps passer. Et votre tête n'arrête pas de se remettre en question. Vous avez 10 000 idées qui vous passent à travers la tête et vous ne savez pas comment freiner. Il n'y a pas de bouton là pour arrêter. La télévision pour arrêter, mais l'esprit qui tourne, ça ne s'arrête pas. Et là, on a beau se remémorer des beaux chants, on a beau vouloir faire ceci et cela, quand enfin la nuit s'arrête, les nuits blanches s'arrêtent, j'étais tellement rassuré. Quand à 5h30, les blouses blanches arrivaient, c'était rassurant d'avoir des personnes qui était là et qui s'occupait de nouveau de vous. Et je ne sais pas combien de fois j'ai été reconnaissant vraiment pour toutes ces femmes et ces hommes qui étaient là et voilà, qui vous donnaient un petit peu d'espoir, qui vous redonnaient un tout petit peu de couleur, un petit peu un sourire. Il ne faut pas grand-chose dans ces moments-là, mais il faut savoir justement aussi faire confiance, même quand le chemin est long et difficile. Dans ces moments-là, j'appréciais de pouvoir vraiment lâcher prise, me laisser tomber. C'est vrai que c'est assez impressionnant de penser qu'à un moment donné, on en est à un point où on dit « mais cette mort, elle est toute proche, on ne la maîtrise pas, il suffit d'un petit pas et déjà on est dans quelque chose qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté ?» C'est des choses qui sont assez angoissantes. Et pourtant, c'est ce moment-là que j'avais choisi pour me laisser tomber. Où que j'aille, je ne savais pas si j'allais me retrouver dans mon lit ou quelque part ailleurs. Bref, si je suis là ce matin, c'est que Dieu a quand même voulu et a permis que j'ai vive un miracle. Le miracle de la vie. Et un ami m'a dit un jour, est-ce que ça ne serait pas intéressant que tu écrives un petit peu quelque chose de tes mémoires, de ton passé, de ton vécu ? Bon, j'ai trouvé l'histoire un peu saugrenue, et puis surtout je lui ai dit, écoute, si je le fais, je le fais pour moi, mais j'aimerais surtout pas que ça soit édité. Donc je me suis penché sur une page blanche, et j'ai commencé à écrire des choses par rapport à ma vie, par rapport à mon vécu. Et je peux vous dire une chose, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte à quel point, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, Dieu m'a béni au travers de toutes ces années. C'était juste incroyable quand je réfléchissais de nouveau tout ce qui s'est passé entre 1950 et aujourd'hui. Je peux être qu'admiratif. Et tout ça, en fait, me rend vraiment heureux. J'espère aussi que si vous pouvez vous pencher sur votre vie, vous avez des moments où vous pouvez vraiment être heureux. Heureux du chemin parcouru. Vous savez, quand vous allez à la montagne et vous crapahutez là dans les cailloux, etc., puis vous savez, le sommet est encore à une heure de marche, mais vous êtes déjà en nage, vous avez déjà mal aux jambes, vous avez les pieds qui ont des ampoules, vous n'en pouvez presque plus. Mais quand vous arrivez au sommet, une joie immense nous attend parce que nous l'avons fait. Et ça, on peut le faire que quand on y est arrivé, quand on est au but et puis qu'on se dit « waouh ». Et en plus, on a une vue absolument magnifique. Alors, je ne sais pas si un jour je suis dans l'au-delà, je ne sais pas la vue que j'aurai. Mais de temps en temps, je m'amuse de regarder un peu dans le cosmos. Et je sais que c'est juste immense. Et là, je me dis « mais… » Qui suis-je ? Une poussière d'atomes, rien du tout. Et pourtant, Dieu s'est penché sur moi, comme il se penche sur chacun de vous. Dieu nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et en plus, il va nous dire, et c'est vrai que pour nous aussi, ça peut être une source d'inspiration, vous n'êtes qu'un petit troupeau, on n'est pas très nombreux. On pourrait être beaucoup plus, mais non, vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur. Il a plu à votre Père dans sa bienveillance de vous donner le royaume. Voilà ce que Dieu souhaite, c'est que nous lui fassions confiance, même si on n'est pas nombreux, même si on est une communauté vieillissante. C'est sa communauté, c'est lui qui va pourvoir pour que cette Église vive, survive et donne de la joie à des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Sachons lâcher prise dans ces moments-là, sachons lui faire confiance. Et je vous assure, quand vous arrivez à ce point, comme les enfants qui sautent dans les bras de leur père, c'est un cadeau extraordinaire, parce que vous ne pouvez pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Amen.